Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Dans le cadre des Lectures en liberté, nous continuons la lecture du roman de Franck Bouys, Grossir le ciel. Gus interrogea Abel. Alors, si je te suis bien, tu saurais d'instinct la douleur qu'on ressent à voir souffrir un enfant.
Bah, c'était une façon de parler.
Je te connais suffisamment bien pour savoir que t'es du genre à peser tes mots d'habitude. Eh ben, comme tu vois, tu me connais pas aussi bien que tu le penses. Et j'aimerais qu'on en reste là.
À t'écouter, on dirait que j'avais vraiment pas le choix. En tout cas, quoi que tu me demandes, j'assouis. Je te rappelle qu'on a ce troupeau à mener à l'étable.
T'inquiète pas, je reviendrai pas sur le sujet, même si tu ne m'as vraiment pas contenté.
Alors parlons d'autre chose. Ou de rien. Ça sera mieux pour tout le monde, dit Abel en se tournant vers Gus.
Tu sais ce que je crois, Abel ? Dit Gus, en détournant son regard vers l'avant du troupeau.
Mais comment veux-tu que je le sache ?
C'est que tu mens sacrément mal.
Après ces mots, seul le bruit des sabots des vaches écassonnant les mottes de terre sur leur passage accompagna les deux hommes durant le reste du trajet. De temps à autre, une bête relevait la queue pour expulser une bouse liquide qui venait exploser sur le chemin en flaques verdâtres que ni Gus ni Abel ne prenaient la peine d'éviter. Gus ne posa jamais plus la question.
Gus était incapable de demeurer sans rien faire au risque de se perdre définitivement. Trop d'idées macabres accouchaient d'autres idées encore plus calamiteuses. Il se vêtit chaudement, dépendit son fusil de la poutre en voulant se convaincre que c'était pour le cas où il verrait des grives, mais en réalité, c'était que ça le rassurait d'avoir une arme avec lui. Il fourra même des cartouches de 4 dans les canons, le genre de choses qu'il ne faisait jamais avant d'être sur un lieu de chasse. Il faut avouer que côté peur, Gus était servi, sans pouvoir se raisonner, incapable qu'il était d'empêcher des sensations pas agréables de se promener dans sa tête comme des chauves-souris les soirs d'été. Quand Gus se remit en route, les premiers rayons du soleil mangeaient l'horizon et la neige gelée craquait sous ses pieds. Mars semblait rudement content de partir faire un tour lui aussi. Il n'arrêtait pas de tourner autour de son maître. Gus se disait que le flair du chien lui serait utile pour prévenir un éventuel danger. Deux précautions valaient mieux qu'une et il n'était pas homme à se laisser prendre en chasse. Malgré le froid intense, il sentait des gouttes de sueur lui couler dans le creux des mains et pourtant, il n'avait pas de gants, juste ses poches pour se protéger. Gus et Mars arrivèrent bientôt en vue de la ferme d'Abel. Désormais, le soleil crachait ses rayons sur les arbres déplumés qui ressemblaient à des arêtes de gros poissons sans chair dans un charnier à marée basse. Gus n'était pas à l'aise, et encore moins quand il s'aperçut que Mars était également nerveux. Il s'avança dans la cour encadrée par la grange, l'étable, la remise à bois et la maison, de sorte qu'il n'y avait qu'un seul passage, avec un portail jamais fermé, pour entrer dans la ferme d'Abel. Le propriétaire des lieux n'était pas dehors. Gus jeta un coup d'œil dans l'étable. À la vue de l'intrus, les vaches secouèrent leurs chaînes. Il progressa jusqu'au fond du bâtiment, sentant le fumier, même s'il paraissait évident qu'Abel n'était pas dans les parages et qu'il n'avait pas encore pris le temps de dégager la merde, la paille et la pisse mélangées. Ensuite, Gus visita la grange et la remise pour le même résultat, puis décida d'aller frapper à la porte de la maison. Il s'y reprit à plusieurs fois en cognant avec son poing, mais comme personne ne répondait, il s'imagina qu'Abel était peut-être malade et il tourna la poignée. La porte n'était pas fermée à clé. On dit souvent que c'est le premier pas qui coûte. Gus le fit. Il n'y avait pas le moindre bruit à l'intérieur. En donnant un coup d'œil à la rangée de godasses alignées dans le vestibule, il remarqua qu'il manquait les bottes qu'Abel portait habituellement. Gus n'était pas d'un naturel très curieux en temps ordinaire, mais il ne put résister à l'envie de faire une fouille en règle de la maison en commençant par la cuisine. Une casserole avec un fond de café était posée sur le fourneau. Sur la table se trouvait une assiette avec les restes d'un casse-croûte ainsi qu'un verre vide qui sentait le vin et une bouteille vide à proximité. Abel n'était pas du genre à partir boiteux au combat, quel qu'il soit. Chaque chose présente semblait reprocher son attitude inquisitrice à Gus et du coup, par le simple espace que chacune occupait, provoquait une raréfaction d'oxygène dans la pièce. Gus était de plus en plus mal à l'aise. Il poussa pourtant ses investigations jusqu'à la chambre à coucher. Le lit était fait, et il régnait une odeur entêtante qu'il ne parvenait pas à identifier avec précision, une fragrance ressemblant à ce qu'on se serait attendu à sentir dans une chambre de vieux, mais pas d'un vieux comme Abel. Un mélange d'eau de Cologne et de fleurs séchées, quelque chose comme ça. Mars, qui avait suivi son maître à l'intérieur, n'arrêtait pas d'émettre des sons plaintifs à la manière d'une souris apeurée. Il faisait rudement sombre à cause des volets fermés. Gus ne voulut pas presser l'interrupteur de peur de réveiller une monstruosité impalpable en dormance. Ses yeux mirent un moment avant de s'habituer à la pénombre et à distinguer le redan constitué par les angles des meubles se découpant sur le mur blanc opposé, ressemblant aux crémaillères d'un antique château fort abritant une implacable armée désireuse de ferrailler avec l'assaillant. Tout au fond de la pièce, sur une chaise branlante, il crut apercevoir plusieurs peluches colorées, apparemment pas de première fraîcheur, du genre de celles qu'on peut gagner à la fête foraine si on a des sous à gaspiller. Gus était prêt à s'en rapprocher un peu plus, pensant que le mouvement servirait de pare-feu à sa propre peur quand Mars se mit à aboyer. Gus sursauta, une porte claqua. Il se retourna brusquement en tenant toujours fermement son fusil dans ses mains, la gauche agrippée au fût et la droite à la crosse, libérant un doigt posé sur le pontet. Il se retrouva alors face à Abel, qui paraissait mort de fatigue, et visiblement pas content du tout de le voir dans sa maison. « Qu'est-ce que tu fais chez moi ?» demanda Abel, en mordant chaque mot prononcé. « Je m'inquiétais ?» Tu t'inquiétais de quoi? Et puis baisse cette arme, tu veux? Oui, bien sûr, répondit Gus, en prenant conscience qu'il avait machinalement dirigé son fusil dans la direction d'Abel. J'ai fait le tour des bâtiments avant de frapper à ta porte, et comme personne ne me répondait, je suis entré pour voir si tout allait bien. Eh ben, tu vois, ça va plutôt bien. Bon, c'est ce qui me semble, en effet. Mais t'es quand même pas venu juste pour savoir comment je vais. « Il y a autre chose qui t'amène, je suppose. »«
Autre chose, oui. Alors quoi ?
Ta tronçonneuse.
Je voulais te l'emprunter si c'est possible.
Et t'as besoin de prendre ta pétoire pour ça,
fit Abel, sans quitter le fusil des yeux.
Ben, c'était pour le cas où il y aurait eu des grives.
À cette heure ?
Ben, on sait jamais.
Mais la chasse est fermée, je te rappelle.
Ben, t'as déjà vu un garde-chasse dans le coin pour l'affirmer ?
Sûr que non, mais...
T'es sûr que tu me dis tout ?
Mais qu'est-ce qu'il y aurait à rajouter ?
Ben, je sais pas, moi.
J'ai rien à dire de plus que ce que je t'ai dit.
Bon, tu viens ? Fit alors Abel en balançant sa tête en direction de la cour.
Où ça ?
Ben, tu te rappelles la tronçonneuse que tu veux m'emprunter ?
Ah oui, oui.
Tu veux bien me la prêter ?
Ben, évidemment.
Gus essayait de ne rien montrer de ce qui le tracassait, mais son cœur cognait dans sa poitrine comme un marteau-piqueur. Et ça lui demandait un sacré effort de prendre suffisamment de l'air filant à marche forcée jusqu'à ses poumons. Il emboîta le pas d'Abel en chemin vers la remise. Ce dernier farfouilla un moment, puis extirpa une tronçonneuse couverte de sciure et de traces graisseuses dessous le plateau de son établi, encombré d'outils de toutes sortes et de boîtes contenant des pointes et des vis. Il l'attendit à Gus en disant « T'as de l'huile à chêne et du mélange, je suppose. »«
Ouais, j'ai tout ce qu'il faut. »«
Tu peux la garder quelques jours. »
J'en ai pas besoin ces temps-ci.
Tire bien sur le starter au démarrage. Parce que si tu la loupes, elle repartira pas sans que t'aies à démonter la bougie.
D'accord.
Merci du conseil. Abel tendit la tronçonneuse à bout de bras, mais il ne la lâcha pas quand Gus voulut s'en saisir, comme pour montrer de quel côté se trouvaient la force et la détermination. Et que les mots qu'il allait dire étaient aussi affûtés que les dents de la chaîne.
C'est marrant, cette idée que j'arrive pas à me sortir de la tête.
Laquelle ?
Que je suis pas certain que ce que tu veux vraiment est en rapport avec ce que tu me demandes.
Qu'est-ce qui te fait dire ça ?
Ton attitude. On te dirait tracassé d'une chose que je sais pas, mais qui a pourtant bien l'air de me concerner.
Tu te trompes. Y a rien qui me tracasse plus que de faire tomber deux châtaigniers morts.
Et ça pouvait pas attendre un jour de plus, c'est ta raison, vu que j'avais pas l'air d'être chez moi.
Bah, tu me connais, quand j'ai quelque chose en tête, je suis pas du genre à m'arrêter en chemin.
Même quand il s'agit d'aller au-delà des bonnes manières qu'on se doit entre gens civilisés, à ce que je vois.
Je saurais m'en rappeler.
J'admets que j'aurais pas dû rentrer chez toi et je m'en excuse encore une fois.
C'est heureux, dit Abel, en lâchant la tronçonneuse de sorte que Gus manqua d'être entraîné par le poids de l'outil. Un sourire jaillit alors du visage d'Abel, comme un geyser. Puis il se ferma de nouveau pour que ses mots ne perdent rien de leur gravité. Et il ajouta
« Et souviens-toi,
de quoi ?
On rentre pas chez les gens tant qu'on n'y a pas été invité. »
Shame the way she makes me scrub the floor. I ain't gonna work on Maggie's farm no more. I ain't gonna work for Maggie's brother no more. No, I ain't gonna work for Maggie's brother no more. He hands you a nickel, he hands you a dime, he
friend if you're having a good time, and he finds you every time you slam the door. I ain't gonna work for Maggie's brother no more. Kicks. His bedroom window, it is made out of bricks. The National Guard stands around his door. I ain't gonna work for Maggie's pa no more. About man and God and law, everybody says she's the brains behind Pa. She's 68, but she says she's 54. I ain't gonna work for Maggie's Ma no more. Just like them, they say sing while you sleep, and I just get bored. I ain't gonna work on Maggie's farm no more.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Après cette nouvelle pause musicale, nous reprenons la lecture du roman de Franck Bouys, Grossir le ciel. Il n'y avait décidément rien d'amical dans la voix d'Abel. Il regarda Gus s'éloigner. Aucun des deux hommes ne semblait tranquille. Gus marchait lentement, le pouce de sa main droite glissé sous la bride de son arme. Il mourait d'envie de regarder ce qui se passait dans son dos. Puis la porte de la maison se referma dans un grand bruit sec. Quand Gus se retourna, la cour était vide. Après avoir passé le portail, Gus observa la combe en contrebas. Il laissa passer un peu de temps afin de s'assurer qu'Abel n'avait pas l'idée de vérifier qu'il avait bien quitté les lieux. Des gouttes d'eau provenant des toits se fracassaient sur le sol, libérées de leur état neigeux par la chaleur du soleil, faisant comme les branches liquides d'un saule pleureur, et des particules de lumière découpées dans un arc-en-ciel s'amusaient dans son champ de vision, tels des diatomées évoluant dans un organisme vivant. Constatant que tout était calme, Gus bifurqua au coin de la grange, marcha en direction de la porte de derrière, tira le clenche du verrou et entra. Mars était pressé de remonter au doge, mais Gus avait une idée derrière la tête. Il monta dans la barge à foin par un escalier de fortune, fait de marches suffisamment larges pour que Mars soit en mesure de le suivre. Il n'était pas aisé de marcher sur les poutres avec un fusil dont la courroie menaçait de glisser sans arrêt de son épaule et qu'il fallait rajuster sans cesse d'une main, sans compter la tronçonneuse qu'il tenait dans l'autre. Il fit l'équilibriste jusqu'au portillon situé en hauteur, par où Abel faisait passer le foin quand il le déchargeait de la remorque pour l'empiler à l'abri. Les lames ajourées lui permettaient de voir l'ensemble de la cour. Le poste d'observation était idéal. Il fit allonger Mars sur les bottes de foin en lui parlant tout doucement pour le rassurer. Puis, il s'assit pour voir s'il allait se passer quelque chose en espérant au fond qu'il ne se passe rien. Gus n'eut pas longtemps à attendre. Environ 5 minutes plus tard, Abel sortit de la maison. Gus plaqua une main sur le museau de Mars. Il vit Abel disparaître derrière le bâtiment et revenir peu après en tenant une pelle bêche souillée qui avait dû servir à creuser récemment. Il se dirigea vers le bassin qu'il utilise pour laver les noix et entreprit de faire tremper la pelle plusieurs fois de suite dans l'eau et de la frotter avec une brosse. Ce qui dégoulina ressemblait à de la rouille, la même couleur que provoque une coulée d'argile dans une rivière après une forte pluie. Gus, lui, ne pensait pas à de l'argile. Abel baigna une dernière fois le tranchant de la pelle et désormais ce n'était plus que de l'eau claire qui ruisselait dessus à la manière d'une nuée de cloportes chassées par la lumière. Gus ne bougeait pas. Et Mars sentait que ce n'était pas le moment de la ramener. L'animal semblait avoir aussi peur que son maître. Ils en étaient là, l'homme et le chien. Lorsqu'Abel leva les yeux tout droit en direction de sa grange, on aurait dit qu'il fixait exactement la petite porte par où il engrangeait son foin en juin et le regain en septembre. C'était le regard de quelqu'un capable de deviner ce qui se trouve derrière un mur, quelqu'un capable de sentir une présence malgré les obstacles, quelqu'un qui aurait ce genre de pouvoir-là, qui voisinerait avec le diable en personne. La tension dura une bonne minute, une minute infinie, durant laquelle Gus eut la sensation d'être fixé à la poutre qui le soutenait. Puis, Abel se mit à regarder attentivement sa pelle toute propre, comme s'il défiait l'univers tout entier et une personne en particulier de trouver la moindre trace qui aurait pu contrarier le déroulement de cette journée. Ensuite, il alla ranger son outil dans la remise, prenant soin de fermer la porte à clé, puis se dirigea vers la maison. Même de l'endroit où il était posté, Gus était prêt à jurer qu'Abel souriait. Des frissons montèrent dans tout le corps de Gus. Mars devait sentir que son maître n'était pas au mieux et voulait dégager son museau pour se manifester. Si jamais Gus le lâchait, il allait sans doute se mettre à couiner ou à aboyer. Abel pourrait peut-être l'entendre. Et Gus n'aurait pas d'explication satisfaisante à donner. Il entreprit de calmer l'animal en le caressant, tout en lui parlant doucement. De son autre main, il arrima la courroie du fusil sur son épaule et jeta un dernier coup d'œil dans la cour. Abel avait disparu. Gus se dit qu'il n'était plus temps de réfléchir. Il saisit la tronçonneuse et refit l'équilibriste en sens inverse. Mars était tout content de ressortir. Lui, Gus, ne savait pas vraiment ce qu'il attendait dehors. Une fois arrivé à la porte de la grange, il l'entrebâilla pour regarder si Abel ne lui avait pas joué un mauvais tour et ne traînait pas dans le coin. La voie paraissait libre. Gus accéléra le pas, suivi de Mars. Ils enfilèrent un rang de la plantation de pommiers pour être le plus vite possible à couvert. Gus ne sentait pas le poids de la tronçonneuse. Il ne pensait même pas que son fusil était toujours chargé et qu'un coup pouvait partir si jamais il trébuchait. Il voulait juste se tirer de là sans regarder en arrière. Un vol de grives s'envola de sous les arbres en faisant un raffut de tous les diables et des corbeaux accompagnèrent les fuyards en croassant, leurs ailes crissant sur le ciel en papier de verre, comme si rien de vivant ne devait échapper à leur vigilance. Gus ne se sentit en sécurité qu'après avoir atteint la lisière des chênes, exactement à l'endroit où il se trouvait à l'affût la veille, là où, d'une certaine façon, tout avait commencé. Là où il avait conçu l'idée d'un drame. Il se retourna alors. Mais rien ni personne n'apparut, et cela ne lui apporta aucun soulagement. Des fils de sueur glissaient maintenant sur son front. Il se remit en route une fois assuré que tout était en ordre, avec le soleil en pleine face. En s'éloignant de la ferme d'Abel, Gus pensa à l'abbé qu'on allait enterrer dans 2 jours. Il fallait qu'il se concentre là-dessus. De retour au doge, Gus sortit son tracteur. Avec sa benne encore attelée sur les 3 points du relevage, et y déposa un pneu usagé, la tronçonneuse, un bidon d'huile, du mélange, un merlin et des coins de différentes tailles. Il occupa le reste de la journée à abattre 2 châtaigniers secs qu'il débita en morceaux 1 mètre de long chacun, puis rassembla les petites branches inutilisables et y mit le feu à l'aide du pneu qu'il avait emporté. Pendant que ça flambait, il commença à fendre les troncs avec le merlin et les coins. Gus avait toujours aimé faire du bois de chauffage. Tronçonner, débiter, fendre, empiler. Il s'agissait de la seule activité qu'il eût jamais partagée avec son père, vraiment partagée, même s'il ne se parlait pas en travaillant. Une sorte d'entente secrète. Une empreinte commune, incrustée en chacun d'eux, quelque chose qui devait se situer au-delà de la mémoire, quelque part dans le sang. Le père et le fils ne s'étaient jamais bien entendus. Peut-être que si le père avait vécu plus longtemps, il se serait passé des choses entre eux, de l'ordre du pardon et de la rédemption. Mais il arrive fréquemment que la vie rencontre la mort plus tôt que prévu, et personne n'y peut grand-chose. Pour Gus, c'était une drôle de blessure pas vraiment refermée, qui suintait quand il n'aurait pas fallu. Nous avons terminé pour ce soir la lecture du roman de Franck Bouys, « Grossir le ciel », que nous reprendrons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon. Vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.